bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amirault. Dans cet épisode, je vous propose de regarder 3 conseils pour réussir votre refonte de site internet. Entreprendre une refonte de site internet, c'est pas une démarche anodine, hein. Le problème, c'est que trop souvent, ce chantier est envisagé pour modifier une seule chose, c'est l'apparence graphique. Alors le design, c'est important, évidemment c'est super important, mais ça ne doit pas être le critère principal dans une refonte de site web. Pourquoi ? Parce que le site ne doit pas être une simple extension de votre brochure, mais il doit être un véritable générateur de leads, hein, de contacts commerciaux. Alors à quel moment est-ce qu'il faut envisager la refonte de son site web ? Quels sont les points priorisés ? Le design, la technique, les aspects marketing ? Et ben pour répondre à ces problématiques, j'ai interviewé un expert du web, c'est Daniel Ibarrard. Daniel a créé l'agence Web Prospection il y a plus de 20 ans. Il est également formateur en web marketing et en communication digitale. Alors, je l'ai interviewé pour avoir son point de vue autour de cette thématique. Alors, cette interview, ça fait partie d'un échange en 2 parties. La seconde aura trait aux aspects commerciaux du site internet. Elle sera publiée la semaine prochaine. Alors, les points échangés avec Daniel, c'est pourquoi et comment refondre un site web. Pourquoi il ne faut pas prioriser le contenant, c'est-à-dire le site, mais plutôt le contenu. Et enfin, donc 3 conseils pour réussir la refonte de votre site. Voilà, je vous laisse en compagnie de Daniel pour la première partie de cette interview. Bonne écoute. Daniel, salut.
Bonjour Fabrice.
Tu vas bien ?
En pleine forme. Ravi de faire partie de l'empreinte digitale et pour une fois être acteur de ce que j'écoute d'habituellement en spectateur, quoi. Enfin, en auditeur plutôt. En auditeur. C'est un podcast.
Un auditeur. Eh oui, il ne faut pas jeter un œil à un podcast, il faut plutôt tendre une oreille.
Ou deux.
Ou deux, ouais, c'est encore mieux. Alors, Daniel, tu es un spécialiste du web marketing depuis déjà quelques années, tu as une super expérience. Est-ce que je peux te laisser te présenter ?
Bien sûr, Daniel Ibarra. Je me suis fait connaître dans le web marketing par le biais de formations et de conférences que je donne régulièrement sur le sujet. Le web marketing, c'était une vraie vocation et c'est toujours une passion, quoi. Il y en a qui jardinent, qui bricolent, qui peignent, etc. Bon, mais moi, je faisais des sites web pendant mes temps de loisir. Et puis, finalement, c'est comme toutes les passions, hein, ça finit par devenir dévorant. On a envie de ne faire plus que ça, et au bout d'un moment, c'est vraiment posé la question de est-ce que je continue mon métier. J'étais commercial, et d'ailleurs, on le ressent bien encore dans ma manière de faire du web marketing, qui est très en plein de techniques commerciales. Et puis, j'ai décidé de quitter le salariat et de me lancer dans le web marketing.
Ok, et aujourd'hui, tu as ton agence ?
Ouais. J'ai mon agence, ça fait 17 ans maintenant, une petite agence, on est 5 personnes en région parisienne et effectivement on travaille, alors ça a pas mal changé, hein. Maintenant on est plus une agence de communication digitale, c'est plutôt comme ça que je la présente, alors que tout au départ on était une agence assez technique, hein, plutôt une agence web, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de conception de sites web et aujourd'hui on n'en fait pratiquement plus, voilà, c'est juste de temps en temps un peu pour la gourmandise on va dire. Pour le plaisir d'en faire, mais on travaille plus sur ce qu'on appelle maintenant le web marketing. À l'époque, il y a 17 ans, on parlait d'agence web, tu vois, et on parlait peu des techniques de marketing, de communication digitale, etc., quoi, hein. Il y a 17 ans, les réseaux sociaux, ça n'existait pas encore, hein, voilà. Ça a commencé à éclore en 2005-2006, et c'est juste le moment où j'ai créé la boîte, quoi, 2005 en fait.
Justement, tu fais moins de sites web. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a moins de besoins ou parce que du coup les entreprises sont déjà équipées ?
Or, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises équipées, mais paradoxalement, et d'ailleurs la crise sanitaire l'a démontré, si tu veux, quand il y a eu la crise Covid, on a découvert qu'il y avait un tas de e-commerçants qui n'étaient toujours pas digitalisés, donc ça a été une catastrophe absolue, quoi, parce que les biens de première nécessité étaient fermés et ils n'avaient pas de débouchés commerciaux. Donc y a énormément de besoins encore d'appétence. Moi ça me surprend, hein, parce que c'est pas neuf, hein, le e-commerce, si tu veux, hein. Et je suis toujours surpris de voir autant d'entreprises qui ne sont pas encore digitalisées. Mais non, je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est moins dans la création de sites que dans la communication. Si tu veux, créer un site internet, quand j'ai commencé, c'était un vrai boulot de geek, quoi. Tu vois, on codait dans le dur, etc. Ça nous prenait vachement de temps.
HTML.
Ouais, HTML, CSS, PHP. Voilà, on avait tout un tas de langages. Et c'était vraiment un vrai boulot d'informaticien, quoi. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement des CMS. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tu montes un WordPress, un Shopify, un PrestaShop. Bon, ben ça se monte. Alors, je vais pas te galvauder le truc en disant qu'on monte ça en quelques minutes, parce que tu as quand même des techniques, c'est reste quand même technique. Hein. Je me méfie toujours des présentations qui disent créer votre site internet en 15 minutes. Ouais, le nom de domaine existe en 15 minutes et ta coquille vite existe en 15 minutes. Pour autant, est-ce que c'est un site internet? Tu vois? Moi, je crois pas. Un site internet, c'est quand il propose une valeur. Et proposer une valeur, ça prend énormément de temps et on n'est pas préparé à ça. Il y a beaucoup de mes clients qui me disent « Daniel, est-ce que vous pourriez me faire un site internet ?» Oui, et tu leur livres le site. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai migré vers le web marketing. Je leur livrais le site avec un contenu initial et puis je m'apercevais que 3-4 mois après, ce contenu n'avait pas bougé parce que ces gens n'étaient pas armés pour faire de la communication digitale. C'est-à-dire qu'on ne savait pas dialoguer sur Facebook hormis d'avoir quelques amis et raconter 3 bêtises. On ne savait pas l'utiliser professionnellement. Et puis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Et ça, c'est un truc qui me dépasse toujours. C'est la première objection de mes clients. Quand je leur dis, tu sais, c'est un site internet, c'est un écosystème digital, il va falloir produire du contenu. Ouais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Ça me dépasse tout le temps. Je leur dis, mais parle de ton PC, de ton métier, de tes valeurs, de ce que tu as envie de communiquer, quoi. Et on n'est pas commerçant par hasard. Quand on crée une entreprise de service, ce n'est pas un hasard si on a choisi ce métier-là, tu vois. Et on a forcément des choses à dire sur son métier. Et là, je me suis aperçu que le contenu devenait vraiment, vraiment l'enjeu. Et en même temps, je lisais pas mal de documents anglo-saxons, hein, parce qu'on sait que le web vient surtout d'outre-Atlantique, quoi. Et naissait le mouvement de l'inbound marketing. Si tu te souviens de cette époque, tu vois, où on se disait fini la publicité, arrow sur les publicitaires, tout le contenu est roi, etc. Et donc, ça a fait naître l'inbound marketing, le traitement des appels entrants. Et forcément, moi qui étais commercial, l'appel entrant, ça me parle, tu vois. Parce que tu as deux manières d'avoir des prospects. Soit tu téléphones, tu envoies des mails, c'est-à-dire tu fais de la prospection téléphonique, soit tu attends derrière ton téléphone que le téléphone sonne. Ça, c'est génial pour tous les commerciaux. Le gars, il est tellement populaire que finalement, les appels, les clients, ils viennent à lui tout court. Et je me suis dit, finalement, le site web, c'est quoi? Bah, ce n'est que le média, le téléphone, il faut le faire sonner. Et j'ai commencé à me dire, bah, comment on le fait sonner? Bah, il faut tout simplement travailler sa notoriété, le contenu, donner envie aux gens de nous appeler. Et c'est ça qui a fait naître l'inbound marketing en France. Moi, je l'ai traduit par web prospection. On ne fait pas du web pour se faire plaisir, mais on le fait pour faire vivre nos boîtes et nous amener des clients, quoi.
D'où le nom de ton entreprise aujourd'hui.
D'où le nom de l'entreprise, Web Prospection. Donc ça marque bien le côté archi-commercial. Hein. Parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, quoi. On ne communique pas uniquement, mes clients, ce sont des professionnels. Tu vois, au départ, je faisais du site web, je t'ai dit, c'était ma passion pour mes copains, quoi. Donc, je travaillais pour le club de plongée, pour mes copains avec qui je faisais du VTT, de la course, ou mes potes motards. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tiens, j'ai fait une belle balade. Et puis, on se partageait les bons plans. C'était ça, mes premiers sites web, en tant que Daniel, l'individu, quoi. Et puis, après, je me suis dit, si je veux en vivre, il faut que les gens puissent tirer un bénéfice sonnant et trébuchant de mon travail. Donc, que mon travail, non seulement je leur fournis le site web, parce que ça, c'était la mode, tu vois, il y a 17 ans, peu de gens avaient des sites internet, finalement, quoi. Mais je me suis très vite aperçu que ça ne suffisait pas. Il fallait faire un gros travail éducatif en leur disant « produisez du contenu » parce que derrière le site web, si on fait avec le site internet comme il s'est passé la génération précédente, donc là, je parle, tu vois, aux plus de 45 ans qui ont connu le Minitel, quoi. Le moment où toutes les entreprises se sont ruées sur le 36-15, et puis ensuite, on ne savait pas quoi en faire. Donc, ça n'a pas marché, quoi. Et je me suis dit, le web, le danger du web, c'est qu'il puisse suivre la même trajectoire. On crée un site internet, on s'intéresse au look, au design. C'est toujours un peu le cas, hein. Si tu regardes bien les agences web, très souvent, elle te parle, tiens, on va faire une refonte parce que le site n'est plus à la mode, tu vois, et on parle de look. Alors, notre métier, c'est de la création, mais c'est la création graphisme, mais c'est surtout la création commerciale, quoi, de l'argumentaire. ouais, viens chez moi, remplis le formulaire, fais sonner mon téléphone, fais sonner mon tiroir caisse pour les marchands, quoi. Donc il faut qu'il y ait une dimension commerciale majeure. Et comme un commercial, quoi, il faut argumenter tout le temps. Et l'outil web n'est finalement qu'une prolongation de ce que l'on fait quand on rencontre des gens dans un salon, au téléphone ou quand on envoie un email, quoi.
Alors ça, je l'ai vu, hein, pour l'avoir vécu en entreprise, effectivement, on envisage une refonte, on travaille avec une agence, et puis l'agence, met, quand on fait l'appel d'offres, quand on a les présentations, ils mettent à fond l'accent sur la charte graphique, l'UX design, etc., l'ergonomie, très bien. Toi, qu'est-ce que tu priorises en premier lieu? C'est plutôt l'aspect marketing, en génération de leads, c'est quoi?
Ouais, dans le cadre d'une refonte, tu parles?
Ouais. Ouais.
Bah, déjà, une refonte, c'est un exercice, tu vois, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et puis ça peut être un peu périlleux parce qu'il y a des points de vigilance. Donc, on se lance là-dedans que quand il y a ce que j'appelle, moi, un point de friction, un point de douleur. C'est-à-dire que si tu n'as rien à corriger techniquement, pourquoi faire une refonte? Ça, c'est le premier point, quoi. J'ai horreur du truc, le site, il est pas beau, il est vieux. Bah, ça, c'est de l'affect, tu vois. Il y a des gens dans l'art, ils aiment bien le rap, il y en a qui aiment bien le rock, et d'autres aiment bien le tango et la valse. La valse, c'est vachement plus vieux que le rap. Est-ce pour autant que le rap est une meilleure musique? Non, c'est une question de goût, tu vois. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait le site qui plaise au persona, c'est-à-dire au type de clientèle. Et est-ce que le type de clientèle que tu recherches, il trouve les argumentaires ou est-ce qu'il trouve l'ergonomie? Si tu réponds oui, c'est juste à améliorer le contenu. Si tu réponds non, alors il faut faire une refonte. Et c'est vrai que les agences, elles se focalisent très souvent sur la partie technique, tu vois, ou sur la partie graphisme. Mais parce que c'est très souvent leur cœur de métier. Si tu regardes bien l'environnement du web, on est encore très marqué par l'époque du web technique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences web, c'est-à-dire qui te livrent des sites, qui vont faire du graphisme, qui te proposent des CMS, qui te proposent des extensions, des applications. Et il y en a autant d'ailleurs qui te proposent aussi de la communication digitale, mais ce seront rarement les mêmes, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire dans mon entreprise. C'est-à-dire proposer non seulement le contenant, mais le contenu en même temps. Et même maintenant, encore une fois, je t'ai dit, on ne propose pratiquement plus de contenant, parce que je t'ai dit que je faisais pratiquement plus de site web. Par contre, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour tous les gens qui ont besoin de faire une refonte de site. Tu vois. Et là, on privilégie vraiment l'aspect commercial. Très souvent, on fait une refonte parce que le site ne marche pas très très bien. Tu vois. J'ai pas énormément de prospects. Pourquoi tu n'as pas énormément de prospects? Parce que ton contenu, ta valeur ajoutée n'est pas mise en avant. Ça, c'est du pur marketing, quoi.
Ouais, beaucoup considèrent encore le site web comme une brochure, un peu une belle brochure commerciale, avec alors plus étendue ouais, qu'une brochure.
Mais... Ouais, mais c'est l'historique. Tu vois. Le site web, tout au départ, si tu réfléchis, c'était une extension de la plaquette commerciale. C'est-à-dire qu'on y mettait tout ce qu'on savait faire. Et on parlait de soi. D'ailleurs, tu les reconnais, les sites. C'est accueil, qui sommes-nous? Offre 1, offre 2, offre 3, puis contact, tu vois. C'est-à-dire qu'on commence par dire, voilà qui je suis, le rôle de la plaquette commerciale, tu vois. Je me présente, je présente mon offre, voilà. Alors ça, c'est un inconvénient, c'est que du coup, c'est très compliqué à actualiser, etc. Alors que le web, c'est un outil idéal pour ça, tu vois, c'est un outil agile. Tu changes d'offre, tu changes de métier, tu changes d'approche, hop, tu crées une nouvelle page ou tu modifies une page. C'est beaucoup plus facile que de mettre à jour une plaquette, quoi. Donc on a toujours un petit peu ce sentiment de je crée une plaquette, mais du coup c'est bien le problème, c'est que dans la nouvelle communication, et c'est ça que la transformation digitale a amené je pense chez les marketeurs, c'est le fait qu'aujourd'hui on doit avoir quelque chose qui est extrêmement agile à modifier et qui est centré sur le client. Je crois que c'est Kotler qui disait il y a trois phases dans le marketing. Tu as eu la phase marketing produit, caractéristiques, bénéfices, caractéristiques, etc. On était focalisé sur le produit. Ensuite, tu as le marketing de zéro, qui est le marketing du client. On ne parle que des besoins du client, etc. Et le marketing 3.0, qui est le marketing de l'usage. C'est-à-dire, qu'est-ce que font nos clients, nos prospects de nos services et de nos produits? Donc ça se caractérise d'ailleurs par les forums, les avis clients, tu vois, tout ce moment où les usagers finalement prennent la main sur la communication. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment en retard. C'est pour ça que les agences web sont très souvent restées sur la partie « je te livre un contenant technique ». Et quand ils font une refonte, on ne parle que de graphisme, etc. Moi, quand j'aborde une refonte, je parle études comportementales, tu vois, d'enregistreur de sessions, de eye tracking, de click tracking, de mouse tracking, c'est-à-dire où c'est que les gens vont cliquer. J'essaye d'analyser le parcours de visiteurs avec ces outils-là pour me dire, là, effectivement, il semble qu'il y ait des hésitations, par exemple. Tu sais qu'on peut détecter l'hésitation d'un internaute sur une page.
Avec l'eye tracking ?
Alors l'eye tracking, non, parce que ça va déterminer là où les gens regardent. Moi, je te parle de l'hésitation. Le gars qui est en train de chercher une information, alors je ne sais pas laquelle, hein, mais il est en train de la chercher. Et bien, tu regarderas, tu as un espèce de mouvement un peu compulsif quand tu cherches une information. Si tu as un petit mouvement nerveux de ta souris, soit tu fais des petits va-et-vient, des espèces de petits Z ou des petits ronds. C'est souvent le cas d'ailleurs quand tu utilises le notepad, tu sais, la partie centrale,
ouais.
Tu dessines des petits ronds ou tu dessines des petits Z un peu fébriles, tu essayes de voir où est l'information, quoi. Et quand tu as un peu de chance, c'est le clic suivant, condition que ce ne soit pas la Croix-Rouge. mais tu vois, on arrive à détecter des zones comme ça qui sont d'intérêt. Et là, tu te dis, si j'arrivais à construire un site en fonction de ce que veulent les gens, eh ben, a priori, ça devrait fonctionner. J'ai vraiment appris ça avec mes formations. Tu sais que mes dernières formations, je les ai faites avec mes premiers apprenants, juste en leur demandant ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils n'avaient pas aimé dans le cours, ce qu'ils avaient compris, qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver, etc. Tu vois. Et je construis souvent mes formations comme ça.
Ouais, c'est bien d'avoir les retours des... Justement, hein, tu fais ta formation, toi, ce qui te semble pertinent, puis après tu vois les retours des personnes, est-ce que ça répond aux besoins ou pas ? Puis en fonction, t'adaptes.
Ouais, mais tu le fais avec ta sensibilité, etc. Tu vois. Alors c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, quand tu dis, si tu le fais avec le message que tu as envie de transmettre, mais il faut faire attention, ce qui est important dans une relation commerciale, c'est pas que tu parles de toi, c'est que ton client, il ait l'impression que tu parles de lui.
Alors ça, c'est important justement. On a l'impression de parler comme il y a 10 ans en arrière, mais le quotidien de Daniel et de moi aussi, c'est qu'on est souvent avec des clients qui ont encore cette approche-là, hein.
Mais ouais, mais tu sais, une révolution technique, on est en train de vivre un truc qui est absolument incroyable. C'est une véritable transformation de fond de la communication, tu vois. Et ça s'est fait en quoi? En même pas 20 ans. Google, c'est 1998. C'est-à-dire que il y a tout un tas de générations, si tu veux, qui ont connu un monde avant Google.
Et qui a encore donc les réflexes d'avant Google. Tu vois.
Donc c'est pas si vieux que ça. Mais oui, mais quand nous deux, Fabrice, bon, c'est un podcast, on ne nous voit pas, mais on est de l'âge où on a connu un monde avant Google, quoi. Peut-être même avant le téléphone portable, tu vois. Quand on explique ça à des milléniums, quoi, qui eux ont toujours connu, ils se disent, mais la communication, elle est globalement uniquement digitale. Mais aujourd'hui, les gens qui ont à créer un site internet, eh bien, comme ils ont aussi connu ce monde avant Google, ils ont été éduqués. Nous, ce qu'on a appris à l'école, c'était de la communication traditionnelle, tu vois. C'était construire des plaquettes commerciales, créer de l'animation sur un stand dans des salons, faire de la prospection téléphonique. C'était ça qu'on a appris à l'école de commerce. Enfin, c'est ce que j'ai appris à l'école de commerce, en tous les cas, tu vois. Et c'est ça le challenge que l'on a, en fait.
Si tu devais donner, dans le cadre d'une refonte, 3 conseils sur une refonte de site web, ce serait quoi les 3 éléments à prendre impérativement en compte ?
Alors, le premier point, c'est l'audit ultra précis de l'existant. C'est-à-dire être sûr que quand on fait une refonte, on n'abîme rien. Ça veut dire qu'il y a des URL, par exemple, des pages, tu ne peux pas te louper, tu ne peux pas te permettre de changer l'URL. Donc ça va nous contrarier un petit peu dans l'arborescence du point. Ça, c'est la première chose. Être sûr de ne rien abîmer. Donc, il y a des points de passage, il faut absolument les identifier. Ce sont des axes majeurs, si tu veux. Tu ne changes pas le bitume d'une autoroute sans précaution. Tu vois, un petit chemin de traverse, c'est pas grave si tu te loupes sur une autoroute la veille des vacances, tu ne te loupes pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est utilise des outils d'études comportementales avant de se dire, tiens, je vais faire une refonte parce que le CMS, il n'est pas beau, parce que, une idée qui est liée à de l'affect ou de l'ego, ça, c'est pas bon. Donc, on a de la chance d'avoir le métier le plus transparent au monde. On a des centaines de métriques à notre disposition et des milliers d'outils à notre disposition. Choisis ce que tu veux, mais prends quelque chose avec lequel tu es à l'aise et regarde ce que font tes internautes sur ton site, tu vas trouver les points de friction. Et le troisième conseil, ne te fie pas qu'à ton instinct. Apprends à lire dans les chiffres. Encore une fois, on a le métier le plus transparent. Les chiffres ne sont pas là pour nous fliquer, quoi. Ils sont là juste pour nous dire quel est ce que font réellement les gens de ce que... Voilà. Je dis souvent à mes apprenants, méfie-toi de ce que tu penses, regarde uniquement ce que les gens font. Donc, mes trois conseils pour la refonte.
Voilà, c'était la première partie de cet échange avec Daniel. Donc vous avez compris un peu les principaux enjeux dans le cadre d'une refonte. J'espère que cet échange vous aura aidé si vous avez un projet de refonte de site, voilà, que vous puissiez prendre à présent les bons critères en priorité avant d'engager ce chantier. La semaine prochaine, il y aura la seconde partie. Alors là, on se concentrera plus sur les aspects de web marketing. Voilà, quels sont les canaux à prioriser pour vraiment faire de son site web un vrai outil de prospection commerciale. Merci à tous de votre écoute. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le liker sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur cette plateforme. Vous pouvez aussi le liker sur Deezer, Spotify. Merci beaucoup à tous et je vous dis à la semaine prochaine.